Bonsoir à tous et à chacun. Serge Receveur au microphone. Soyez les bienvenus, vous qui êtes présents dans le salon Albert Mola, et vous, toujours plus nombreux, qui nous écoutez, nous réécoutez, en podcastant cette émission au travers du site mola.com. Monsieur Guénot, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous recevons afin que vous nous entreteniez de l'ouvrage que vous avez fait paraître chez Plon sous le titre « La nuit et le jour ». Haut fonctionnaire, conseiller maître à la Cour des comptes, vous fûtes conseiller spécial du président Nicolas Sarkozy, vous avez été élu député de la 3e circonscription des Yvelines. Ancien commissaire au plan, c'est un élément d'importance. Parce que dans votre cursus, je trouve que c'est important. Je m'attendais bien sûr à trouver dans ce livre une explication sur les 5 années que vous avez passées aux côtés de Nicolas Sarkozy. Mais je dirais, heureusement, ce n'est pas que cela. Ce livre rédigé sous forme d'entretien arlésien avec un instituteur... est en fait une profonde réflexion sur notre société, sur notre pays et surtout sur la politique dont vous dites « la politique, on sème et l'on ne sait pas quand on récoltera ». Page 222. J'ajouterai que votre ouvrage renferme un touchant portrait de Philippe Séguin dont vous étiez très proche. Si vous êtes d'accord, nous allons répondre de suite à la question que de nombreuses personnes, ici et ailleurs, se posent. Quelle est votre analyse de l'échec de M. Sarkozy ?
Je vais...
D'entrée.
D'abord, bonsoir à tous et merci d'être venus aussi nombreux à ma rencontre ce soir. Je vais vous décevoir, je n'ai pas de réponse à cette question. Je pense que personne n'en a... Personne n'est capable de dire pourquoi, lorsque l'on perd avec un écart aussi faible de voix, pourquoi on a perdu. On peut faire beaucoup de théories, on peut faire beaucoup d'hypothèses. La seule qui me paraît finalement réaliste, c'est nous avons traversé une crise qui a fait souffrir beaucoup de gens. Et au fond, un certain nombre de Français se sont dit... que peut-être, comme beaucoup de gens l'ont fait avant eux dans l'histoire, que peut-être que si le président de la crise partait, la souffrance partirait avec lui. Voilà, il est parti, la souffrance est restée, mais je n'ai pas d'autre explication. Après, on peut en trouver, on peut parler de la droitisation, les uns trouvent qu'on était trop à droite, les autres trop au centre. Bon, il y a peut-être d'autres... On peut sans doute faire une analyse fine de la campagne présidentielle, se dire qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire autrement, mais on n'aura jamais l'explication définitive. Et au fond, ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est de savoir si, pour nous-mêmes, si ce que nous avons fait est bien ou mal, si nous sommes fiers ou honteux de ce que nous avons fait. Voilà, ça c'est une question moi, qui m'intéresse et à laquelle j'ai des réponses pour moi-même. Mais pour le reste, qui a donc la réponse et pourquoi donc M. Hollande a-t-il gagné ?
Exact. Mais
moi, je n'en sais rien.
On peut toujours se poser.
Je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que ben voilà, les Français ont choisi, enfin les Français, une partie d'entre eux, en tout cas une majorité, et qu'ils ont la politique qu'ils ont choisie.
Oui, mais enfin, M. Guénot, vous dites quand même, écoutez, page 85, ce qu'on a reproché le plus à Nicolas Sarkozy, c'est qu'il voulait gouverner.
Oui, ça ne veut pas dire qu'on a perdu à cause de ça. Mais ça explique la haine qu'il a déclenchée.
Qui s'est accumulée au-dessus de sa tête.
C'est-à-dire, voilà, rendez-vous compte, un président de la République qui veut gouverner, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas été confronté à ce genre de personnage. C'est une vieille histoire. C'est déjà arrivé au général de Gaulle début des années 60. Il voulait gouverner. Bon. Il voulait gouverner, ce qui signifie qu'il voulait reprendre le pouvoir à tous les corps intermédiaires, à tous les corporatismes, à tous les groupes de pression et d'intérêt qui avaient pris l'habitude sous la 4e République de se gouverner eux-mêmes. Bon. Quand il a, rappelez-vous, quand il a voulu que le président de la République fût élu au suffrage universel. Hein. Et qu'en plus, il a souhaité faire adopter cette procédure par le peuple français directement, en utilisant l'article 11 de la Constitution, c'est-à-dire sans passer par le Parlement. Eh bien, il s'est heurté à une opposition d'une violence absolument inouïe. Le président du Sénat, à l'époque, il n'était pas un gauchiste, l'a accusé de forfaiture, M. Monnerville. L'Assemblée nationale a renversé le gouvernement. C'était une assemblée avec une majorité qui était censée être une majorité gaulliste. Et le général de Gaulle a choisi d'ailleurs de renvoyer l'Assemblée plutôt que le gouvernement. Mais ça a été d'une violence inouïe. La haine qu'a provoqué de Gaulle. Laissons de côté l'affaire algérienne, ses souffrances. La haine, c'est qu'il a provoqué, c'est qu'il voulait gouverner. Il ne voulait pas laisser ni aux partis, ni aux syndicats, ni aux corporations, ni aux intérêts. Le pouvoir, il appelait cela les féodalités. Il disait les féodalités n'aiment rien moins qu'un État qui fait réellement son métier, qui par conséquent les gouverne. Eh bien, ça n'a pas changé. C'est toute l'histoire de France. Voilà, quand le souverain veut gouverner avec le peuple, eh bien, les féodalités se révoltent. Et il disait les féodalités, elles ne sont plus dans les donjons. Elles sont dans les syndicats, dans les partis, dans les intérêts. Et rajoutait-il, pardonnez-moi, dans la presse. Voilà, aujourd'hui, on dirait dans les médias. Mais enfin, voilà, ça n'a pas tellement changé. Et Nicolas Sarkozy, il arrive après une bonne trentaine d'années de renoncement du pouvoir exécutif à gouverner. Il arrive après 30 années de théorisation de l'idéologie de l'impuissance publique. Il arrive après 30 années d'un projet européen de dépolitisation de l'économie et de la société qui commence vers le milieu des années 80. Et dit « je veux gouverner ». Et il gouverne. Et évidemment, il se heurte à une levée de boucliers terrible. On l'a vu d'ailleurs pendant la campagne présidentielle, le débat qu'on a eu sur les corps intermédiaires, qui au fond, encore une fois, est un vieux débat français, tout à fait légitime, a pris une tournure d'une violence inouïe, absolument hors de proportion, avec les propositions qui étaient faites. Mais dès que vous touchez à ça, dès que vous dérangez ceux qui ont pris l'habitude de se gouverner eux-mêmes et qui ne veulent pas entendre parler de la souveraineté du peuple, qui prétendent l'exercer à sa place, eh bien, vous déclenchez dans notre pays une violence terrible. Donc, il a déclenché cette violence et cette haine au-delà de tout le reste. On peut discuter du style, du comportement, tout ce qu'on voudra. Mais en réalité, le fond du problème, il était surtout là. Voilà, c'est que lui pardonnez pas de vouloir diriger un gouvernement qui gouverne. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon analyse de la situation. On dit souvent, vous avez raté la communication. Mais non, aucune politique de communication n'aurait pu endiguer une telle haine. Aucune. C'est même pas un problème. Peut-être qu'on a fait des erreurs de communication, sans doute, certainement même. Mais c'est pas ça qui explique ce déferlement de haine, de mensonges, de caricatures, d'attaques personnelles. Ah, c'est beaucoup plus profond. Et encore une fois, c'est une vieille histoire française.
Bien, ceci étant évacué, j'aimerais bien que vous nous parliez de ce que vous appelez les dimensions tragiques de la politique. Parce que c'est quand même une des parties de votre ouvrage, une partie à mes yeux importante.
Oui, c'est pour moi absolument essentiel. Première remarque d'abord, la politique meurt de sa superficialité. Ça fait des décennies que on considère au fond que la politique ne peut pas grand-chose sur les événements, elle ne peut pas peser sur l'histoire, qu'elle est au mieux une méthode de gestion, elle doit accompagner les événements, puis à la marge corriger un peu de ci ou là. Mais il faut comprendre ce que cela signifie. Ça signifie que la volonté humaine n'a pas de place dans l'histoire. Parce que qu'est-ce donc d'autre que la politique, que la volonté humaine dans l'histoire ? C'est d'ailleurs pas étonnant, au fond, que ce que nous appelons la politique en Occident soit né à peu près en même temps que la tragédie et au même endroit. Que la mise en scène de la dimension tragique de l'histoire et de la condition humaine. cette idée du rapport entre la tragédie et le et la politique, c'est simplement l'idée de mettre en rapport la question du destin et la question de la volonté humaine. Et oui, l'histoire est tragique. Et oui, ceux qui ne reconnaissent pas, qui ne comprennent pas la dimension tragique de l'histoire, ne peuvent pas reconnaître et comprendre la dimension tragique de la politique, et donc réduisent la politique à rien. En tout cas, passe à côté de cette idée que la politique, c'est l'irruption de la volonté humaine dans l'histoire. Vous savez, ça nous renvoie encore une fois au gaullisme, non pas comme programme ou politique, comme catéchisme, mais comme d'abord comme réflexion morale sur la condition humaine. Malraux disait, le gaullisme, c'est la force du non dans l'histoire, du non, N-O-N. Il disait aussi, le gaullisme commence par un refus contagieux. Mais c'est l'histoire du 18 juin, c'est pour ça que j'ai commencé par ce livre, par le 18 juin, un des rares discours que j'ai écrit, que j'ai prononcé moi-même pendant ces 5 ans. Malraux disait aussi, voilà, ce nom du 18 juin faisait écho à celui d'Antigone et de Jeanne d'Arc. Mais il y a quelque chose de très profond dans cette remarque. Hein. Le gaullisme, ça commence par cette interrogation morale sur la politique, c'est-à-dire la liberté humaine, elle s'exprime de la façon la plus ultime dans cette capacité pour un homme ou pour un peuple à dire non à tout ce qui menace de la servir. C'est Malraux avec une autre très jolie formule dont j'ai fait quasiment ma devise. Il disait, c'est dans le discours des Glières, je crois, seul l'esclave dit toujours oui. Seul l'esclave dit toujours oui. Belgolis, c'est le contraire de ça. Enfin, plutôt, c'est la leçon tirée de cette remarque. Seul l'esclave dit toujours oui. Et si la politique n'incarne pas cette idée de la liberté, de la dignité d'un homme ou d'un peuple, n'incarne à mes yeux rien. Voilà, le rapport gaulliste ou gaullien à la politique, ça commence là. Mais ce n'est pas la chose la mieux partagée du monde. Hein. Si vous regardez l'histoire des 30 dernières ou des 40 dernières années, si vous regardez même le paysage politique aujourd'hui, d'où le besoin que j'ai éprouvé, moi, de revenir sur cette idée du tragique en politique. Il y a des gens qui n'ont pas le sens du tragique, dans les deux acceptions du terme, c'est-à-dire la révolte contre la fatalité et aussi la nécessité pour l'homme, pour affirmer sa liberté, de décider, même quand il est face à l'indécidable, même quand il ne sait pas ce que seront les conséquences de ses décisions. C'est un exemple très fréquent pour un président de la République. Des terroristes enlèvent des otages français dans un pays étranger. On sait où ils sont. Faut-il essayer de les libérer militairement ou laisser les terroristes les emmener dans leur refuge? Vous ne savez pas, quand vous prenez cette décision, si vous allez condamner les otages ou si au contraire, vous allez empêcher qu'il soit condamné. Vous ne savez pas. J'ai fait un jour un débat où il y avait Mme Duflot qui me disait « Ah, si vous n'étiez pas intervenu, il serait encore vivant. » Mais excusez-moi, pardonnez-moi la remarque un peu désobligeante, mais pauvre imbécile, vous le saviez, vous ? Voilà, et à un moment, il faut prendre cette décision. Ne pas en prendre est une décision, d'ailleurs. Ne pas en prendre, ça veut dire ne pas les libérer, laisser les terroristes l'emmener. C'est une décision tragique, au sens que donnait Camus à ce mot. C'est-à-dire, il disait, le drame, c'est quand s'affronte le bien et le mal, et la tragédie, c'est quand s'affrontent deux légitimités, c'est-à-dire deux bonnes raisons ou deux mauvaises raisons. Mais il faut trancher. Et vous engagez votre responsabilité ultime dans ce choix. Et la politique pour un président de la République, c'est ça, fortiori dans une période comme celle que nous venons de vivre, où le tragique de l'histoire qu'on avait cru disparu après la chute du mur de Berlin, rappelez-vous cette phrase mémorable, l'histoire est finie, tout allait se résorber, le tragique de l'histoire allait se résorber dans la démocratie et le marché. Et puis voilà, il y a eu le 11 septembre, il y a eu tout le reste, puis il y a eu ces quatre dernières années où le tragique de l'histoire et de la politique nous a ressauté à la figure. Et voilà, donc j'ai éprouvé, moi, le besoin de reparler de cela, parce que je pense que c'est un point de clivage très important dans le rapport qu'on peut entretenir à la politique. On ne fait pas la même politique selon qu'on a compris la dimension tragique de l'histoire et de la politique et qu'on l'assume, qu'on est prêt à l'assumer, ou selon qu'on ne l'a pas compris, qu'on n'est pas prêt à l'assumer. C'était, je traduis ça aussi en termes parfois un peu, peut-être un peu désobligeants, mais les hommes de la fin de la Troisième République et souvent ceux de la Quatrième République avaient éludé la dimension tragique de l'histoire. Ils ne voulaient pas l'assumer, c'est-à-dire prendre cette responsabilité de décider quand on est au pied du mur et qu'il faut absolument décider sans qu'on soit absolument certain qu'on a raison. Ils ne décidaient plus. Ils se laissaient porter par le cours des événements. Moi, j'ai appelé ça la France des petits arrangements. Mais je vais vous donner un exemple. C'est pas une France indigne, la France des petits arrangements, parce qu'on a tous parfois envie de s'arranger avec les événements, avec sa conscience, avec le droit, avec, parce que c'est plus commode, parce qu'on n'a pas toujours la force, on n'a pas toujours la volonté. Mais c'est un vrai problème en politique. Je veux dire, c'est une vraie ligne de partage. Je cite un exemple dans mon livre qui m'avait beaucoup frappé, qui permet de comprendre ce que je veux dire par là, enfin de mieux comprendre, j'espère. J'avais un de mes copains de régiment avait pour père un général de corps d'armée qui était un vieux général recousu de partout, qui en 1940 était lieutenant dans l'arme blindée. Donc il commandait un peloton de chars et il se trouvait au moment de la débâcle quelque part dans le nord de la France. Et il s'approche d'un village avec son peloton de chars. Et au détour du chemin, il trouve la route barrée par tout le conseil municipal. Le maire en tête, écharpe. Donc il s'arrête. Et le maire lui dit, mon lieutenant, est-ce que vous ne pourriez pas passer un peu plus loin? Non, parce que, comprenez, le village, c'est dangereux. Voilà, ça c'était la France des petits arrangements. Mais parfaitement respectable, mais enfin, ça fait un drôle d'effet à ceux qui vont risquer leur vie pour défendre leur pays de se trouver confrontés à ça. Donc le lieutenant, pour aller jusqu'au bout de l'histoire, fait pivoter sa tourelle, vise le clocher de l'église et dit au maire, voilà, vous dégagez la route où vous n'avez plus de clocher. Donc évidemment, ils se sont écartés. Voilà, c'est une histoire vraie, c'est pas... Mais on m'a beaucoup reproché d'avoir dit à propos de l'histoire du Veldiv et de ce qu'avait déclaré M. Hollande. J'ai dit c'était un peu fort peut-être, mais enfin, je le pense profondément. J'ai dit peut-être préfère-t-il la France cette France des notables, toujours prête à tous les petits arrangements, qui est allée se précipiter à Vichy pour faire acte d'allégeance au maréchal Pétain, parce que ça les soulageait, parce que voilà, ils trouvaient que c'est. Moi, je préfère l'autre. Voilà, celle qui était à Londres, la mienne était à Londres. Bon. On va dire, quand même, vous exagérez. Non, j'ai pas dit que cette France était une France de collaborationnistes, de collaborateurs, mais simplement, cette France des petits arrangements, elle a permis que Vichy existât. Voilà. Parce que c'est tellement soulagé de on peut comprendre, hein, mais ça relève, même si on peut comprendre, même si on peut pardonner ou excuser, ça relève de la faiblesse humaine, pas de la grandeur d'âme. Voilà, ben ça fait une différence en politique. Selon que vous misez sur une France ou sur l'autre. Et j'ai pas compris d'ailleurs sur cette histoire du Veldiv, pardon de sauter d'utiliser une pensée un peu cursive, mais pas compris qu'on trouve ça inutile, superflu ce débat, mais pardon, c'est un débat fondamental. Si la politique n'est pas ancrée dans ces questions morales, qu'est-ce donc que la politique? Imaginez. Bon, c'est là, on va me dire, c'est la France qui était à. Je dis pas que le Veldiv n'est quelque chose de tragique, d'horrible. Mais enfin, la question n'est pas de qualifier, de savoir si c'est horrible. Oui, c'est horrible. Oui, c'est honteux. La question est de savoir si c'est la France ou si c'est pas la France. Et c'est pas une question secondaire. C'est pas une question anecdotique pour la politique et pour la morale. Parce que si c'est la France, comment peut-on poursuivre ceux qui ont prêté main forte aux bourreaux, qui ont servi leur pays? Qu'a-t-on à leur dire? Pas. Et pire, non seulement l'incrimination juridique devient compliquée, mais l'incrimination morale. Qu'a-t-on moralement à leur reprocher? Voilà, moi, ma France, elle est à Londres, donc je peux trouver que moralement, c'était pas bien. Mais les autres, si elle est à Vichy, ça veut dire que moralement, ben moralement, c'était bien. Enfin, en tout cas, vous imaginez la confusion morale que cela introduit? Mais qu'allons-nous enseigner à nos enfants? On m'a dit que c'est du néo-révisionnisme parce que c'était la police française. Ben, enfin, la police française qui est aux ordres de l'occupant, c'est pas une police française. C'est une police avec des Français, ben, ouais, pas une police française. Et puis, néo-révisionnisme, pardon, mais c'est quand même le choix à la fois juridique, moral et politique qu'a fait la France depuis la libération. Le premier acte du gouvernement provisoire du général de Gaulle est de considérer que tous les actes de Vichy à partir du 16 juillet, je crois, au soir du 17... Du 16 juin ou du 17 juin sont nuls et non avenus. Bon, c'est voilà. Et quand on demandait à Mitterrand si il allait s'excuser, comme le demandaient certains au nom de la République, des crimes de Vichy, il avait répondu à El Kabbach, je m'en souviens très bien, jamais. Et d'ailleurs, ceux qui réclament cela n'aiment pas leur pays. Voilà, je veux dire, mais ce ne sont pas des débats secondaires, ce n'est pas juste des querelles d'historien, non, c'est un débat moral, c'est pas, voilà, c'est pas neutre sur la politique. Et moi, quelqu'un qui me dit ce débat n'a pas d'importance, ça n'a aucun intérêt, pourquoi se battre là-dessus? Je sais que je n'ai pas la même conception de la politique que lui, et je me dis que je ne ferai sans doute pas la même politique.
Voilà. Vous dites à un moment donné, la réparation, c'est la fraternité. Mais la repentance, c'est le ressentiment, c'est la haine de soi qui conduit à la haine des autres.
Oui. Oui, parce que réparer, on peut réparer. Je trouve très normal qu'on répare les dommages qui ont été faits à des victimes, à des gens qui ont souffert. Ça s'appelle la solidarité. Oui, on a réparé tous ceux qui ont été victimes de la Seconde Guerre mondiale, tous ceux qui ont été victimes des guerres coloniales. Très bien, je comprends la réparation. Mais c'est d'ailleurs ce que dit Camus. Il dit la politique, elle a à voir...
Oui, très beau texte de Camus, oui, il est vous citez. Ah oui, très très beau texte. Voilà. Je vous le lis. Je suis un très mauvais lecteur, mais je vous le lis. Il est bon qu'une nation soit assez forte de tradition et d'honneur pour trouver le courage de dénoncer ses propres erreurs. Mais sans oublier les raisons qu'elle peut avoir de s'estimer elle-même. C'est en fonction de l'avenir qu'il faut poser les problèmes sans remâcher interminablement les fautes du passé. C'est un texte magnifique.
C'est magnifique. Et il dit d'ailleurs, voilà, la politique, ça a à voir avec la réparation, pas avec l'expiation. Et donc, réparer, c'est faire preuve de solidarité. La repentance, c'est autre chose. La repentance, c'est une forme aussi de haine de soi. Alors, il peut y avoir des cas où... Je veux dire, moi, Nicolas Sarkozy l'a dit d'ailleurs, mais je comprends que mon pays se repente de ce qu'il a fait aux harkis et aux supplétifs indochinois en Indochine. Voilà. Parce que ce sont des gens qui se sont battus pour la France, qui ont tout donné et qu'on a abandonné. Mais ce n'est pas la France de Vichy qui l'a abandonné, c'est la France à laquelle je crois, c'est la République, c'est... Bon. Mais voilà, après... se repentir de quoi? De l'esclavage, de la guerre d'Algérie, non. Qu'on fasse la lumière sur l'histoire, oui. Et qu'on assume cette histoire partagée avec les horreurs de part et d'autre. Très bien. Mais la repentance d'un pays... La question s'est posée quand notre première visite d'État en Algérie avec Nicolas Sarkozy. Il y avait en préparation... son successeur qui avait, son prédécesseur pardon, qui avait commencé à négocier cela, un traité d'amitié franco-algérien. La condition mise par les Algériens était qu'au préalable, il fallait un acte de repentance. Je résume, mais c'était exactement ça de la part de la France. Et Nicolas Sarkozy a dit, bah, écoutez, on n'aura pas de traité d'amitié, on pourra continuer à vivre sans, mais je ne ferai pas cet acte de repentance. Imaginez le président de la République rentrant en France, affrontant le regard des mères qui ont perdu leurs enfants, qui n'ont jamais retrouvé le corps de leur mari, dont le fils a été égorgé. Comment le président de la République, moralement vis-à-vis de ses concitoyens, peut-il soutenir cela? C'était pas possible. C'est pas du tout un mépris pour les victimes algériennes de la guerre d'Algérie, mais on peut pas demander ça à un chef d'État. C'est vis-à-vis de ses propres concitoyens. Enfin, il y a quelque chose de moralement insoutenable. C'est De Gaulle recevant Adenauer disant sans rien oublier du passé. La France et l'Allemagne ont décidé de regarder ensemble vers l'avenir. Mais il ne lui a pas dit expier d'abord et revenez après. Et puis les Allemands ont fait leur chemin. Ils avaient. Pardon, mais les crimes du nazisme étaient autre chose que les horreurs des guerres coliniales. Je vais quand même remettre les choses à leur place. Mais on ne leur a pas dit ça. Et puis les Allemands ont fait leur chemin voilà, jusqu'à la reconnaissance de leur. Des crimes du nazisme, mais ils l'ont fait, ça les regardait eux. Mais imaginez De Gaulle. Expiez d'abord, revenez après. Voilà, ça ne fait pas la même politique. Selon la façon dont vous abordez le problème moral, vous ne ferez pas la même politique.
Écoutez, parlez-nous de la République, parce que vous avez dans votre livre un chapitre qui est sur la République, une sorte d'acte de foi en regard de la République. Et vous dites, de mon temps, ce désir de vivre ensemble avait un nom. Il s'appelait la République. Alors parlez-nous de la République.
Oh, ça c'est le sujet d'une conférence entière. Non, mais je vais essayer d'en parler de façon simple. Le but de ce livre, comme de cette rencontre, c'est pas un but académique. Hein, je pourrais passer des heures à définir la République, l'histoire de l'idée républicaine, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. C'est de chercher à mettre en place des repères dans notre rapport à la politique, dans notre façon de penser notre avenir, pas seulement notre passé, des repères moraux, intellectuels, politiques, philosophiques, spirituels aussi. Et la question de la République, je la trouve centrale, même si le vocabulaire est toujours un peu difficile à manier. Au fond, il y a quelques années, Régis Debray, le philosophe, avait essayé d'esquisser, dessiner le débat entre ce qu'il appelait d'un côté les républicains et de l'autre côté les démocrates. Alors les mots n'étaient pas forcément très bien choisis parce que on voit bien ce qu'on peut faire d'un tel clivage, expliquer que les républicains ne sont pas démocratiques. Bon, en France, la République et la démocratie sont nées ensemble. Mais il y avait quelque chose de profond, que je traduirais plutôt par la formule du général de Gaulle en 58. Nous voulons la démocratie et la République. Puis il y a ceux qui veulent la démocratie sans la République. Parce que la démocratie, au fond, c'est une question de moyens et d'institutions. La démocratie, c'est le suffrage universel, le multipartisme, la liberté d'expression. La République, c'est un système de valeurs. C'est un système de valeurs, c'est bien sûr l'égalité, la laïcité. C'est aussi quelque chose de très français. Enfin, ce que nous mettons sous ce mot est très, très, très particulier. C'est l'idée d'une nation une et indivisible. C'est la souveraineté, c'est l'indépendance de la nation, mais la souveraineté du peuple. C'est le refus du communautarisme. C'est la citoyenneté comme égalité absolue des droits et des devoirs de chacun. Oui, c'est une certaine méfiance, c'est vrai, vis-à-vis des corps intermédiaires au nom de la souveraineté du peuple. C'est le refus du droit de la différence et de la différence des droits. C'est une réticence très forte au multiculturalisme. Voilà, tout ça, c'est la République. La République en France, c'est au fond le nom que nous donnons à l'accomplissement du rêve capétien, du projet capétien. Ça commence pas en 1789. C'est cette idée d'une France une, indivisible, d'une nation où chacun, partout, on a les mêmes droits, les mêmes devoirs. C'est ce rêve poursuivi par les rois de France à travers la fiction, vous savez, du double corps du roi, mais cette fiction qui va permettre de fonder l'État. Et cette alliance permanente dont je parlais tout à l'heure entre le souverain et le peuple, contre les féodalités de toute nature. D'abord les vraies féodalités de l'époque féodale, et puis ensuite les féodalités plus contemporaines. La République, c'est ce qui continue et qui accomplit ce grand projet. Et la France est un pays à la fois très républicain de ce point de vue-là et très monarchique. Je crois que je l'ai dit d'ailleurs quelque part dans le livre, mais c'est un vieux pays monarchique, alors que l'Angleterre, par exemple, est un vieux pays aristocratique. C'est un pays qui n'aime pas les distinctions, qui déteste les privilèges, même si tout le monde en veut pour lui-même. Mais il y a il y a dans ce pays qui est probablement un des États-nations dont la diversité anthropologique est la plus grande depuis le début. Pour assurer l'unité de ce pays, il fallait une clé de voûte. La clé de voûte, c'était le souverain. Et plus ce souverain était puissant, plus les particularismes et les privilèges étaient abaissés, affaiblis. C'est pour ça que l'égalité est dans la République, quelque chose de central. C'est pas forcément l'égalitarisme. On peut en avoir après plusieurs lectures, lecture égalitariste ou l'égalité des chances. Ce que vous voyez, mais le principe d'égalité est la clé de voûte de l'unité de ce pays. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qu'on peut écarter d'un revers de la main. C'est pas un sujet de débat politique conjoncturel, superficiel. Voilà, c'est quelque chose de très profondément ancré dans la conscience collective, dont on peut faire le meilleur ou le pire, mais dont on ne peut pas se défaire. Voilà. Et cette égalité, là, elle est assurée par le souverain. Voilà, c'est le souverain qui en est la garantie, cette égalité, et donc cette unité qui en est le corollaire. Et d'ailleurs, la grande réussite de la Ve République, c'est d'avoir renoué ce fil et d'avoir fait une monarchie républicaine. Ce que un politologue de gauche appelé Duverger, il avait qualifié la Ve République de monarchie républicaine, mais c'est assez juste, c'est assez beau. C'était la France c'est un vieux pays monarchique qui a besoin d'un souverain qui fait alliance avec le peuple contre les féodalités. Voilà, si on devait résumer l'histoire de France, et la République pour moi, c'est ce grand projet national qui dure depuis si longtemps et qui s'accomplit plus pleinement au 19e et au 20e siècle, dans lequel évidemment l'école va jouer un rôle absolument décisif, mais aussi le service militaire, mais aussi le service public, le programme du Conseil national de la Résistance, cette espèce de synthèse à chaque époque on accomplit, donc la dernière étant la Ve République au fond, la précédente étant le Conseil national de la Résistance, celle d'avant l'école républicaine, etc. Et si on regarde ce qui s'est passé depuis depuis une trentaine d'années, on ne cesse d'affaiblir cette idée républicaine, et on voit monter à l'assaut de l'État, qui est le pilier de cette République, de son autorité, toute une série de groupes, de communautés, d'intérêts, de voilà. Et là, il y a une ligne de clivage très forte. Donc, il y a ceux qui disent, mais c'est la démocratie. Voilà, la démocratie, c'est que il y a plein de groupes d'intérêts, plein de groupes de pression, des communautés, des corps intermédiaires. qui sont en concurrence, en conflit les uns avec les autres. C'est ça la démocratie, au fond, il faut organiser ce conflit. Et puis il y a ceux qui disent, oui, ben, au-dessus de ce conflit, il y a l'unité de la nation, l'intérêt général, l'autorité de l'État, et le refus de voir des corps ou des communautés faire écran entre l'État et le peuple. Voilà. Donc la République, c'était la loi et l'expression de la volonté générale. Les anti-républicains considèrent que plus on abaisse la loi, mieux c'est. Parce qu'il faut laisser de la place à la diversité, encore une fois, des intérêts, des groupements, des vieilles histoires. C'est, le corporatisme est anti-républicain tout autant que l'hypersyndicalisme ou le régime des partis. Si on ne prend pas la République comme un régime politique, mais comme un système de valeurs, encore une fois. Mais c'est ça dont il est question, ce combat entre ceux qui veulent la démocratie et la République et ceux qui veulent la démocratie sans la République, même s'il est parfois difficile à expliquer, est en réalité central. Voilà, depuis 30 ans, on a cessé c'est paradoxal d'ailleurs, d'abaisser l'autorité de l'État, mais vous remarquerez que plus on abaisse l'autorité de l'État et plus il se bureaucratise. C'est-à-dire, non mais c'est vrai, c'est la bureaucratisation de l'État croît à proportion de l'affaiblissement de son autorité. C'est moyen d'autorité, plus il y a de bureaux, plus la responsabilité politique disparaît, plus on donne à des appareils, à des organismes, des pouvoirs décidés à la place des autres, pouvoirs anonymes, diffus, personne ne peut mettre en cause. Voilà, on a créé d'ailleurs des autorités administratives indépendantes, merveilleuse invention sémantique d'ailleurs pendant. Hein, comment peut-on être une autorité administrative et indépendante? On a inventé ça. Voilà, on a vu, on voit monter incontestablement le gouvernement des juges. Le juge, il a sa place dans la société. Sa place, c'est pas de faire le droit, c'est pas de gouverner à la place du gouvernement. C'est pas d'être un justicier, c'est pas de se battre contre le pouvoir, c'est de faire respecter les droits de chacun, c'est de faire respecter la loi, c'est de l'appliquer. Et le juge, il n'a au fond le droit de faire la loi que quand il y a un vide juridique. Mais tout le système qu'on a créé, à la fois à l'échelle nationale et communautaire, consiste à instaurer presque un gouvernement des juges. Nous-mêmes, on n'est pas exempt d'ailleurs de fautes et d'erreurs dans ce domaine. Voilà, le Conseil constitutionnel, il avait été créé pour éviter les empiétements du législateur sur le pouvoir réglementaire du gouvernement. C'était ce qu'on appelait le parlementarisme rationalisé, vous savez, pour essayer d'éviter le retour au gouvernement d'assemblée qui nous avait fait tant de mal dans l'histoire. Bien. C'est devenu un pouvoir en soi, qui sanctionne le législateur, qui sanctionne le gouvernement, et qui le fait sur des bases juridiques dont on pourrait quand même discuter un jour. C'est depuis qu'en 71, il a décidé que le préambule de la Constitution faisait partie de la Constitution et que le juge constitutionnel était fondé à vérifier la conformité de la loi au préambule de la Constitution. Le problème, c'est que le préambule de la Constitution, qu'on le veuille ou non, c'est un texte philosophique et pas juridique. Voilà, quand vous dites « Ah, ça contrevient au principe d'égalité », le principe d'égalité, ça laisse un pouvoir d'interprétation très large au juge, parfois trop large. Bon, et on a cessé d'étendre ce contrôle. Vous rajoutez à ça la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de cassation qui vous explique un beau matin que les juges du parquet ne sont pas indépendants. Mais la Constitution n'a jamais donné à la Cour de cassation le droit de se prononcer sur une question pareille. Elle dit oui, mais elle reprend les termes de la Cour européenne des droits de l'homme, mais ce n'est pas son rôle. Voilà, et petit à petit, on a vu ainsi grandir un pouvoir des juges, un pouvoir judiciaire, qui devient non pas complémentaire du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, mais qui devient rival. Bon, pareil pour les autorités administratives indépendantes qui exercent des pouvoirs de plus en plus importants sans avoir de compte à rendre à personne. Voilà, c'est un problème européen, c'est vrai. on a mis l'Europe en pilotage automatique à partir du milieu des années 80. C'est un problème qu'on retrouve sans arrêt, qu'on va retrouver devant nous de plus en plus. En disant, puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, ben c'est plus, ce ne sont plus les autorités politiques qui vont gouverner, ce sont des autorités indépendantes. Voilà. Ah oui, seulement les autorités indépendantes, c'est bien gentil. Mais ce n'est pas moi qui les désigne, ce n'est pas vous. Elles sont responsables devant personne et ça pose quand même un problème majeur. Voilà, on l'a vu pendant la crise d'ailleurs. C'était très intéressant. Grâce à Nicolas Sarkozy, l'Europe a réagi et elle a réagi non pas à travers la Commission européenne, non plus à travers le Parlement européen, mais à travers le Conseil européen, c'est-à-dire le chef d'État et de gouvernement, parce qu'au fond, c'était les seuls qui étaient responsables devant quelqu'un. C'était les seuls qui, en rentrant, devaient rendre des comptes à leur peuple. Donc, ils pouvaient prendre des décisions, transgresser et même violer les traités. Ah oui, on l'a fait, sinon l'Europe serait morte. On l'a fait pour la Banque Centrale Européenne au moins 3 fois, heureusement. Voilà, mais parce qu'ils avaient des comptes à rendre, parce qu'ils se retrouvaient devant, confrontés à la souveraineté populaire chez eux. Mais il y a une parole terrible que je cite dans mon livre de Mme Merkel. Juste avant que le Conseil européen adopte le dernier projet de traité budgétaire, elle vient fin déjeuner de travail et elle commence ainsi. Elle dit, tu sais Nicolas, le problème qu'on a, c'est que plus personne ne nous fait confiance, à nous les politiques. Donc les agences, les marchés, les investisseurs. Ben, donc il faut que ce soit d'autres qui décident. Mais je demande à chacun de réfléchir pour savoir où ça nous mène. Voilà. Mais ça, c'est pas la République, c'est même plus la démocratie. Mais c'est un sujet, ce sont des sujets absolument majeurs. Et le problème, moi, que j'ai aujourd'hui avec le pouvoir actuel, c'est au-delà de savoir s'il y a une politique de gauche, de droite, du centre, au-delà de la compétence ou de l'incompétence, du caractère, du courage, c'est ce problème-là, c'est ce choix d'une ligne. Est-ce que on choisit une ligne républicaine? Est-ce qu'on choisit la politique qui pense à l'intérêt général, qui pense que l'intérêt général est au-dessus des intérêts particuliers, des intérêts qui veut que l'État soit au-dessus des communautés, des groupes, des partis, ou est-ce que la politique, ça ne consiste qu'à servir des clientèles? Voilà. Et c'est pas du tout une... Non, aussi, c'est pas une conception indigne de la politique. Mais c'est une conception très particulière. C'est celle, encore une fois, des hommes de la fin de la Troisième, même un peu avant, des hommes de la Quatrième République, enfin de beaucoup d'entre eux. J'ai dit un jour, c'était un mauvais jeu de mots, mais moi ça me fait penser à la victoire de Hollande aux primaires socialistes à l'époque. J'ai dit ça me fait penser à la victoire, à la revanche de la vieille SFIO de Guy Mollet sur toutes les autres gauches. Bon, Guy Mollet, personnage, pour ceux qui s'en souviennent, mais président du Conseil en 1956, personnage tout à fait respectable, maire d'Arras, 11 ans secrétaire général de la SFIO, l'ancêtre du Parti Socialiste, très bien. Homme respectable, courageux, il avait fait de la résistance. Mais voilà, pour lui, la politique, c'était l'art de négocier, de marchander, de mettre d'accord des courants, des sous-courants, des factions, de mettre d'accord des clientèles. Et voilà, il est confronté à la crise économique et à la guerre d'Algérie. C'est-à-dire, l'homme, dans la conception de la politique, était aux antipodes du tragique de l'histoire et de la politique, se trouve confronté à une situation tragique. Et ça devient, et ça finit en catastrophe. Bon, voilà, c'est eh bien, on est devant ce problème-là. C'est l'envie de se débarrasser de cette angoisse du choix, de cette obligation de décider, angoissante, de décider face au tragique de l'histoire, en donnant le pouvoir à des corps, encore une fois, à des corps intermédiaires, des autorités indépendantes, puis en négociant avec des clientèles. Écoutez-moi. C'est une conception de la politique, voilà. Mais elle est centrale aujourd'hui, cette question-là, elle est centrale dans les clivages politiques, beaucoup plus, à mon avis, que savoir si c'est la droite, la gauche, le centre, le milieu. C'est capital pour comprendre ce qui se passe, et ça ne fait pas la même politique, et ça ne nous fait pas affronter l'histoire de la même manière.
On dit que vous êtes un eurosceptique. C'est quoi votre Europe rêvée?
À l'Europe rêvée, bon, c'est, bon, je suis eurosceptique ou pas sceptique, je ne suis pas sceptique, je suis totalement opposé à la façon dont les choses se passent. Voilà, ça c'est clair.
Non
mais voilà, c'est pas... vous savez, on avait posé une question au général de Gaulle, c'est dans l'entre-deux-tours des présidentielles en 65, c'était la fameuse interview avec Michel Droit, certains s'en rappellent peut-être, qu'on ressort très souvent, où il dit, en sautant comme un cabri sur sa chaise, en criant l'Europe, qu'on fait avancer les choses. Bon. La première question que lui pose Michel Droit, c'est celle-ci. Il dit, mais au fond, en général, êtes-vous européen ? Et il dit, je suis français, par conséquent, européen, parce que la France est en Europe. Voilà. Donc je suis européen, mais bien sûr, et c'est lui qui fait le marché, c'est lui qui accepte de la mise en œuvre du marché commun qui a été ratifié en 57. Tout le monde s'attendait à ce qu'il ferme les frontières, il le fait pas. C'est lui qui fait la réconciliation franco-allemande. Donc voilà, ça c'est. Moi, l'Europe, l'Europe, il faut bien comprendre, elle change de nature au milieu des années 80. Vous avez l'Europe des pères fondateurs. Comment agir ensemble ? Comment faire ensemble des politiques communes ? Comment peser dans le monde ? Donc ça sera la politique agricole commune, l'Euratom, la CECA, etc. Et au milieu des années 80, il y a aussi la préférence communautaire et tout ça. Au milieu des années 80, ça change. On se dit, à cause de l'élargissement et puis de l'idéologie dominante, c'est très compliqué de décider ensemble. Alors le mieux, c'est qu'on décide plus rien. Donc on met l'Europe en pilotage automatique. On peut dater ça de l'acte unique. Quand le droit de la concurrence devient l'alpha et l'oméga de toute politique européenne, à ce moment-là, on se dit, voilà, maintenant, on n'aura plus à décider. Hein, tout est automatique. Il y a des règles. Elles conduisent à dépolitiser l'économie et la société, entreprise absolument inouïe dans l'histoire du monde et même dans le reste du monde aujourd'hui. Enfin, ça n'existe nulle part ailleurs, hein, à ce degré de... Voilà, le politique s'occupe plus de l'économie, s'occupe plus de la société. Il y a des règles, on les applique. Il y a des juges, il y a le juge de première instance et la commission. Ensuite, il y a la Cour de justice. Sinon, il y a la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Et le politique, moins il se mêle des affaires de la société et de l'économie, mieux c'est. C'est unique au monde. Et c'est intenable. Et on en revient à l'histoire. Est-ce que la politique, ça sert à quelque chose ? Oui, on ne peut pas vivre sans la politique. Puisque la politique, c'est nous. C'est, encore une fois, la volonté humaine. Vous l'enlevez, vous n'avez plus de volonté humaine. Alors la volonté humaine, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Mais enfin, ça a quand même l'avantage d'être la volonté humaine. Nous sommes tous humains pour le meilleur et pour le pire. Ben voilà, je préfère un monde humain pour le meilleur et pour le pire qu'un monde profondément inhumain, où l'humain n'a plus voix au chapitre. Bon. Là, évidemment, en décidant de rien, on est sûr que la défaillance humaine ne jouera pas, mais alors ce qui joue, c'est la défaillance bureaucratique, technocratique. Ça fait de l'Europe un corps apolitique. Et il a fallu attendre le déclenchement de la crise de 2008 pour que les choses commencent à changer un peu face à une situation dramatique où, évidemment, le pilotage automatique, il ne pouvait plus affronter la situation. Moi, l'Europe, dont j'ai, au fond, qui correspond à ce que je crois, je l'ai vue à l'Élysée quand Nicolas Sarkozy a réuni les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro au pire moment de la crise financière. Ça ne s'était jamais fait. Les diplomates disaient, mais c'est pas possible, monsieur le président, vous êtes président de l'Europe, le président de l'Europe, il peut pas faire ça. Ça s'est jamais fait, c'est prévu nulle part. Jamais les chefs d'État et de gouvernement de zone euro ne s'étaient réunis. D'ailleurs, on a vu le même problème avec la crise géorgienne. Mais quand ils voient l'armée russe rentrer en Géorgie, ils disent, je veux aller en Géorgie. Si, on va essayer d'arrêter ça. Et les diplomates disent, c'est pas possible, monsieur le président. Mais je suis président de l'Europe. Oui, mais. Ça ne peut pas se passer comme ça. Vous réunissez d'abord les chefs d'État et de gouvernement, vous obtenez un mandat et après vous y allez. Elle dit oui, c'est ça. Puis la guerre sera finie. Donc il y est allé d'abord en violant toutes les règles. Il a négocié un accord, il est revenu. À ce moment-là, il a réuni les autres chefs d'État et de gouvernement. Il leur a dit voilà, il y a un accord, il n'y aura pas d'autre. Donc vous le ratifiez ou bien vous sortez pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Personne n'est sorti. C'était la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que les Européens réglaient un problème en Europe eux-mêmes. Enfin, sur le continent européen eux-mêmes.
C'est vrai.
Voilà. C'est... Bon. Et quand il réunit les chefs d'État et de gouvernement dans la crise, et ben on, voilà, ils ont, c'est, la politique a repris, le, a repris la parole, a repris le pouvoir. Ils ont été obligés de prendre des décisions parce que tout s'effondrait. Il a fait venir le président de la Banque Centrale Européenne qui ne voulait jusque-là discuter avec personne. Il était indépendant. Non, c'est plus difficile d'avoir évidemment à discuter avec 17 chefs d'État et de gouvernement qu'avec le conseil d'administration de la BCE. Bon, bah, il est venu et il a dû bah, faire comme les autres, travailler avec les autres. Et ils ont discuté ensemble, travaillé ensemble, exprimé leurs désaccords et décidé ensemble. Alors oui, si l'Europe c'est ça, décider ensemble avec des gens qui ont une responsabilité politique et qui peuvent exprimer une volonté politique commune, oui. Mais si c'est nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas envie, et donc nous laissons les juges, les bureaucraties décider à notre place, alors non. En cours au désastre. Je veux dire, l'Europe aujourd'hui, moi, je rends grâce et je pense qu'on ne lui rendra jamais assez hommage pour ça à Nicolas Sarkozy. Non seulement de ce qu'il a fait pendant cette crise, et notamment en Europe, mais aussi quand il a arraché le G20 à George Bush, mais ce qu'il a dit pendant la campagne présidentielle. Les Français n'ont pas voulu l'entendre très bien, on en reparlera. Mais le discours de Villepinte où il dit voilà, ça ne peut plus durer. Vous voulez un Small Business Act, vous savez, ce texte par lequel les Américains réservent une partie de leur marché public aux PME. Alors aujourd'hui, on vous ressort ça tous les deux ans. On a essayé en arrivant, mais l'Europe ne voulait pas. Bon, mais il n'y en a pas. Alors, les Américains ont le Buy American Act, c'est-à-dire que chaque fois qu'un euro d'argent public, un dollar d'argent public est dépensé, il faut que le fournisseur produise sur le territoire américain. Être de nationalité autre, mais il faut qu'ils produisent sur le territoire américain. Donc, quand vous faites un marché, quand il y a un marché public, il faut un producteur qui produit sur le sol américain. Quand vous faites un plan de relance aux États-Unis, eh bien, il faut que les fournisseurs soient des producteurs qui produisent sur le sol américain. Bon, en Europe, on ne peut pas. Ah, on ne peut pas. L'Europe s'est ouverte, elle a demandé aucune contrepartie, rien du tout. Bon, alors je passe sur Schengen, dont on avait parlé aussi à Villepinte. Ben on fait un accord, mais l'accord suppose que ceux qui sont en charge des frontières extérieures les fassent respecter. Si quelqu'un ne les fait pas respecter, que le juge ne le condamne pas, moi je subis, mon pays subit. Mais ce n'est pas le sens des accords, donc on dit à Villepinte, voilà, on prend un an pour essayer de trouver... un accord sur ce sujet, c'est-à-dire les pays pourront prendre des mesures de sauvegarde plus importantes si un pays ne remplit pas son rôle. Et deuxièmement, on va faire un Buy European Act et on va faire un Small Business Act européen. Si au bout d'un an, on ne s'est pas mis d'accord, bien nous le ferons tout seul. Il faut mettre à un moment cette énorme machine au pied du mur. Mais ce n'est pas être anti-européen, c'est la seule façon de sauver l'Europe. Voilà, c'est alors je sais bien qu'on peut avoir des divergences les uns et les autres, mais enfin, je ne suis pas sûr que ce qu'on ait fait à Maastricht ait permis de renforcer l'Europe. Regardez dans quel état elle est. Voilà, on peut dire aussi que ça a été un des plus mauvais coups portés à l'Europe, vu la manière dont les choses ont été faites. Bon, et d'ailleurs, encore une fois, on a violé 3 fois en 4 ans le traité qui était soi-disant inviolable, parfait, qui ne pouvait pas bouger. Heureusement, parce que... Bon, et si on ne change pas, si on change pas de politique monétaire rapidement, si on ne change pas les règles, on va au désastre. Voilà, parce qu'à un moment donné, on peut toujours dire je suis européen, je veux l'Europe, mais quand tout s'effondrera, ben, tout s'effondrera. Et puis voilà, hein, si l'Europe devient une zone de déflation dans un monde d'inflation, il n'y aura plus d'Europe. Voilà, voilà, c'est tout
même
ça.
C'est suicidaire. Voilà.
Non, mais c'est toutes ces questions dont on a, enfin, que moi j'ai essayé d'aborder, auxquelles on a été confrontés pendant 5 ans, notamment pendant les 4 ans de crise. On n'a pas toujours bien répondu, on n'a pas toujours été parfait, on s'est parfois trompé, mais il y a eu au moins de la part du président de la République une volonté d'y répondre et de prendre les choses à bras le corps, c'est-à-dire de prendre la politique au sérieux et d'essayer de peser sur les événements. Au lieu d'essayer de satisfaire des clientèles, de négocier avec des groupes et des sous-groupes. Bon, c'est quelque chose d'inouï si on regarde l'histoire politique française depuis 3 ou 4 décennies. Et le problème majeur de la politique, ça commence par là. Vous savez, la politique, je m'arrêterai là après, ça commence par des choses simples, au fond, des questions morales, des questions simples. C'est quand un candidat présidentiel vous dit on va supprimer le défilé du 14 juillet parce que, vous comprenez, c'est du militarisme. Bon, moi, je sais une chose, j'en parle un peu, mais ça paraît bête, ça paraît anecdotique, mais pas du tout, je sais une chose, c'est que je ne serai jamais d'accord sur rien du programme de cette personne-là. Je n'ai même pas besoin de lire son programme. Je le sais par avance. Quand on me dit qu'il faut récompenser les élèves qui acceptent d'aller à l'école, je sais que quelqu'un qui est pour cette mesure, je ne serai jamais d'accord sur rien avec lui. Mais sur rien, c'est même pas la peine d'aller étudier son programme. Parce que c'est révélateur d'une position morale, intellectuelle, philosophique. Voilà, et la position que vous avez sur la République, même si c'est difficile, quand j'ai dit un jour, il n'est pas républicain, M. Hollande, il m'a dit, comment ? Pas républicain. Non, il est démocrate, il n'est pas républicain, c'est-à-dire qu'il ne croit pas au modèle républicain. Voilà, il fait partie des gens qui ont cessé de vouloir détruire le modèle républicain. Il est gentil, il cite l'instituteur de Camus, M. Germain, au Bourget, en disant « Ah, regardez, il est redevenu républicain. » Ben oui, mais alors il faut qu'il me dise ce qu'il va raconter aux pédagogistes de gauche qui détruisent l'école de la République depuis 40 ans. Ben voilà, moi j'ai écouté M. Payon hier à l'Assemblée, une députée du groupe socialiste, mais chevènementiste, que je connais bien, pose cette question en disant « Oui, c'est bien les moyens, les chaînes, mais enfin, il y a la formation des maîtres, ça va être quoi ? Est-ce que ça va revenir au pédagogisme ou est-ce qu'on va avoir des maîtres, des professeurs républicains et payants dire non, mais il faut arrêter ce débat, il faut réconcilier tout le monde. Non, il y a un vrai débat à trancher. Je finis là-dessus, c'est Régis Debray qui avait cette jolie formule aussi. Il disait, vous connaissez la différence entre un républicain sur l'école, entre un républicain et un démocrate ? Eh bien, le républicain pense que pour apprendre les mathématiques à Paul, il faut d'abord connaître les mathématiques. Et puis, le démocrate, il pense qu'il faut d'abord connaître Paul. Bon, c'est un peu forcé, mais de temps en temps, ça fait du bien d'aller à l'essentiel.
Merci voilà. Beaucoup. Bien, vous avez compris pourquoi je tenais qu'on invite M. Guénaud. Je vous remercie infiniment. Et je vous souhaite une belle soirée.